Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous partons à la lecture d'un ouvrage qui va nous emmener sur des terrains à la fois connus et inconnus. Connus parce que ce n'est pas la première fois qu'en bande dessinée, on trouve ce type de récit. Inconnus parce que, pour ma part, c'est une des premières si quand même fois où je vais sur ce terrain-là, c'est-à-dire dans un pays, dans deux pays même, qui ne sont pas particulièrement fréquentés par les Occidentaux. Et en tout cas, pas par moi, vous l'avez presque compris. Cette introduction ne vous mène nulle part, je dois le reconnaître, mais je donne le titre de cette bande dessinée. Elle a donc pour intitulé « Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais en exil ». Et voilà. Pakistanais, le mot est lâché, il s'agit donc d'un journaliste qui vient de ce pays, mais on va vous donner un petit peu plus d'explications parce qu'en effet ce journaliste qui s'appelle Taha Siddiqui, eh bien, vient du Pakistan, mais il vit aujourd'hui en France et il est accompagné pour cette bande dessinée d'un dessinateur, auteur de BD qui se nomme Hubert Maury, mais qui n'a pas été que dans ce registre-là. Il a vécu d'autres vies auparavant. Tous les deux donc ont vécu des vies diverses et variées et nous racontent une histoire qui non seulement nous dépayse, mais peut aussi un tout petit peu nous perturber par rapport à la situation globale géopolitique du monde. Bon, voilà. Toutes ces phrases très alambiquées pour vous laisser maintenant la parole Thierry, de manière à ce que vous puissiez nous donner peut-être déjà plus d'informations sur le dessinateur Hubert Maury.
Oui, c'est un attelage singulier, un attelage de personnages qui sont particulièrement compétents pour nous parler de ces pays, de cette situation géopolitique explosive. Et c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'on accueille dans cette rubrique l'ouvrage d'un dessinateur qui est sorti de l'école de Saint-Cyr, ancien officier, ancien diplomate, qui a déjà été à l'origine de livres sur ces pays qui sont autant de poudrières et autant de pays qui influencent la géopolitique internationale.
Oui, il y avait déjà effectivement une histoire de journaliste avec le pays des purs sur le Pakistan, mais également un autre ouvrage qui s'intitulait « Fêtes himalayennes » autour d'une peuplade qui se trouve en Himalaya et qui s'appelle les Kalashs. Et les Kalashs ont une façon de vivre très différente de celle qu'on connaît, nous en tout cas.
Quant au journaliste pakistanais en question, je reviens au titre « Dissident Club » qui peut laisser perplexe. « Dissident Club », c'est un lieu de rencontre, de projection, de débat, d'exposition. C'est aussi un café-bar, on peut manger et boire. C'est un lieu qui se trouve à Paris et qui a été ouvert par ce journaliste en 2020, peu de temps après qu'il soit venu se réfugier en France. Parce que ce journaliste pakistanais, sa vie était menacée. Et c'est d'ailleurs la séquence d'ouverture qui est très frappante dans cet album Dissident Club. Ça commence comme un film d'action américain. Il est en route pour l'aéroport pour se rendre à Londres, je crois, si je me souviens
bien.
C'est un journaliste prestigieux dans son pays à l'international, parce qu'il a quand même été couronné deux fois par le prix Albert Londres, qui est peu le Saint Graal du journalisme d'investigation.
2014 en particulier, oui.
Donc il est dans ce taxi, dans les embouteillages pour se rendre à l'aéroport. Il converse avec son chauffeur. Il allume un joint. Cette séquence est brutalement interrompue par l'irruption d'hommes armés qui descendent d'un 4x4, qui le forcent à sortir, qui le mettent avec violence dans leur véhicule. Un véhicule de l'armée passe à ce moment-là, mais les militaires contemplent la scène avec indifférence, voire complicité. Notre journaliste sait, étant donné son passé de journaliste d'investigation, que le pire lui est promis. Et par chance, la portière de la voiture n'est pas verrouillée. Il va s'échapper, il va risquer sa vie, il va être blessé. Il va comprendre qu'il est temps de partir s'il veut continuer à faire son métier. Et c'est le point de départ d'un livre qui est tout à fait passionnant, sur un sujet passionnant et un pays étonnant.
Ce qui arrive au début, en fait, c'est la fin de ce tome. Et j'ai cru comprendre qu'il y en aurait plusieurs encore à venir parce que la vie de Taha Siddiqui est particulièrement riche. Si je ne me trompe, il n'a aujourd'hui que 35 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, il approche tout juste de la quarantaine. Et néanmoins, il a connu une existence assez mouvementée.
En préparant cette émission, on cherchait les références pour caractériser cet ouvrage. Elles nous sont venues assez naturellement. On pense à l'Arabe du futur de Riyad Satouf, puisque c'est l'histoire d'une enfance et d'une adolescence dans des pays soumis à un mélange détonnant de gouvernements autoritaires et de principes religieux j'allais dire dévoyé, oui, mis au service en tout cas de tout sauf une démocratie.
Du pouvoir, en tout cas.
Du pouvoir, oui. Au service d'un pouvoir fort. On pense à Guy Delisle, ce côté observation des mœurs et du quotidien d'un pays étranger. On pense à un livre plus récent qu'on avait célébré dans une de nos chroniques, c'est « Journal inquiet d'Istanbul », qui était aussi une histoire d'enfance, d'adolescence et d'années de travail en tant que dessinateur de presse, donc une forme de journalisme, dans un pays qui est une dictature qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même dans les faits, c'est la Turquie. On pense à beaucoup de choses, mais on découvre surtout le Pakistan. C'est un pays qui est souvent nommé dans les fils d'infos, qui est une véritable poudrière, qui est un concentré de paradoxes. C'est un pays qui est à la fois tenté par un modèle, une forme de modèle de vie à l'occidental, un pays qui est souvent soumis à un régime autoritaire, mais aux principes religieux très dévoyés, je le disais en commençant cette chronique. Un pays étonnant qui méritait d'être vu de l'intérieur à hauteur d'enfants, d'adolescents, puis de jeunes hommes curieux d'explorer les faces sombres de son pays.
Alors Thierry, dans cet album, on découvre non seulement le Pakistan, mais aussi, quasiment au départ, l'Arabie Saoudite, parce qu'il est question là d'une famille, des parents de Taha Siddiqui, qui vont aller vivre dans un premier temps, donc en Arabie Saoudite, pour gagner leur vie, en fait.
Oui, ça nous rappelle effectivement Riyad Satouf et l'Arabe du futur, où on s'expatrie d'un pays à l'autre. Ce qu'on a énuméré jusqu'ici, c'est une suite d'événements qui peuvent paraître anxiogènes, dramatiques et sombres. C'est une chronique familiale avec un dessin qui est très dynamique, très nerveux, très influencé. Enfin, est-ce qu'il est influencé? En tout cas, il met en mémoire des références qui, pour nous, sont le journal de Spirou, le Spirou des années 50-60.
La dynamique du puits.
Oui, l'école de Marcinelle, comme on utilise en une forme de jargon. Et c'est ce qui rend ce mélange de chronique familiale et d'investigation tout à fait passionnant. Il y a une forme de légèreté, du coup, dans ce récit. L'histoire d'une famille qui très tôt se radicalise. Enfin, le père se radicalise, commence à proscrire. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas tant. Les dessins que faisait le petit garçon, il dessinait des super-héros américains. Évidemment, c'est hors de question maintenant. Hors de question de représenter les grandes figures de la religion, parce que l'image est iconoclaste. C'est aussi le personnage, la représentation de la maman. La maman, c'est un personnage étonnamment neutre. Enfin, étonnamment. En disant ça, ça prête à confusion. C'est un personnage qui n'a pas voix au chapitre, qui est une femme aimante, mais qui s'efforce de préserver une certaine harmonie familiale et une forme d'amour sincère pour ses enfants, mais qui est complètement soumise et qui n'a aucun moyen de s'opposer aux dérives de son mari. C'est l'histoire d'une radicalisation, j'allais dire, à la fois très rapide et rampante. C'est l'histoire aussi de ce que sont les espaces de liberté dans un pays comme le Pakistan, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays extrêmement fermé, très rigoureux. Et quand la famille revient au Pakistan en laissant le père travailler en Arabie Saoudite, bah c'est une forme de libération, parce que c'est la patrie, parce qu'il y a moyen de ruser, il y a moyen de rencontrer des filles, il y a moyen de fumer des joints, il y a moyen de s'amuser un peu sous le manteau, mais en flirtant avec les règles, en prenant des risques, c'est aussi ça qui est intéressant. Les choses vont évoluer de plus en plus mal au fur et à mesure de l'album, jusqu'à la violence et une forme de dramatisme exacerbé avec attentats, répression et manipulation par les Occidentaux, jeu de dupes au plus haut niveau.
Oui, parce qu'il y a une certaine forme de liberté de la presse, néanmoins. Ils peuvent poser des questions, mais la menace est constamment là. Hein, quand les responsables, qui sont généralement des militaires, responsables de l'État pakistanais, ne sont pas d'accord avec ce qui peut être dit ou les questions justement qui leur sont posées, alors tout de suite, on sent que la tension monte et c'est particulièrement le cas pour Taha Siddiqui, hein, qui lui n'a pas sa langue dans sa poche, mais risque de le payer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet album, c'est qu'on a pour une fois un regard qui n'est pas véritablement un regard occidental, mais un regard issu du pays, du Pakistan, même si Taha Siddiqui aujourd'hui vit en France. Eh bien, il nous montre la manière de penser quand on est pakistanais et parfois on est un petit peu perdu parce que l'interprétation des événements internationaux varie hein, selon l'angle qui a été choisi par tel ou tel individu.
Oui, c'est ce qui est passionnant dans cet album, c'est, vous le dites, le point de vue d'un autochtone éclairé qui a la mise à distance de quelqu'un qui a la curiosité de fouiller les zones d'ombre. qui est pendant un certain temps épargné par la répression gouvernementale, on l'avertit à intervalle de l'Union. Il vaudrait mieux ne pas parler de ça. Le sujet n'est pas pertinent. Mais vous savez, il ne faut pas creuser dans cette direction-là. Et puis, vous devriez faire attention. La tension, comme vous le disiez, la tension monte au fur et à mesure du travail de Taha Siddiqui. C'est une forme de combustion lente. Je reparle encore de cette forme de légèreté dans le dessin, de spontanéité dans le récit. Ça raconte des choses très graves et des événements qui vont devenir de plus en plus dramatiques au fur et à mesure du récit, mais avec un certain nombre d'échappées, de bouffées d'oxygène. Mais l'issue, elle vous est donnée dès le départ, c'est que Taha Siddiqui a eu beaucoup, enfin, une forme de chance. Dieu merci, il peut témoigner aujourd'hui. Et c'est un livre qui est à la fois, on le disait en préambule, semblable à beaucoup d'autres et tout à fait singulier.
Je me permets encore une remarque, parce qu'on a tendance à considérer que les musulmans, ceux qui se revendiquent de l'islam, sont tous identiques pour nous occidentaux. On s'aperçoit dans cet album que ce n'est pas du tout le cas. Il est question, vous savez, vous avez entendu ces mots-là, des chiites et des sunnites. Alors il se trouve que, si je ne me trompe, j'espère que je n'inverse pas, mais Taha est sunnite et il rencontre à l'université une jolie jeune femme qui, elle, est chiite. Alors ils vivent une belle histoire d'amour, sauf que cette histoire d'amour, elle doit s'interrompre justement parce qu'ils ne sont pas du même bord. Et ça me fait penser, moi, forcément aux catholiques et aux protestants qui aujourd'hui vivent, allez, on va dire en bonne intelligence, hein, dans nos pays. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était deux religions pourtant chrétiennes qui ne pouvaient pas vraiment se voir. Donc, en fait, les humains n'ont rien inventé. Hein, on répète les mêmes phénomènes, même si on trouve que là, du côté du Pakistan, ils exagèrent un peu. Mais qui sait si ça ne nous ressemble pas quelque part ?
Cette histoire d'amour est très émouvante, très cocasse et nous chagrine beaucoup. La progression de leurs sentiments est très émouvante, très sincère. Et puis patatras, cette histoire de religion, c'est Roméo et Juliette, c'est les Montaigu et les Capulet, c'est le poids des conventions sociales, le poids des interdits qui vient se mettre en travers. Des sentiments, la possibilité d'un bonheur simple. Tout le paradoxe en fait de ce Pakistan qui est à la fois... d'une extrême rigueur, corsetée, puis avec des échappées, des espaces de liberté plus ou moins volés, du temps volé au temps. C'est tout ce mélange qui fait l'intérêt de Dissident Club, que j'ai pas lu dans un premier temps parce que j'étais pas sûr d'avoir envie de lire une énième variation sur les pays, l'islam, etc. Et en fait, c'est une lecture très addictive, très rythmée, très nerveuse et très touchante.
Voilà, vous comprenez que vous avez de quoi faire avec Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais en exil. Vous pouvez même peut-être vous rendre à Paris pour rencontrer ce journaliste qui est Taha Siddiqui, puisque c'est lui qui est à l'origine de cet album, accompagné fort bien par Hubert Maury au dessin. C'est une parution Glénat. Merci Thierry de nous l'avoir présenté. À la semaine prochaine.